Kasi dich. Jolier. Cassez-y. Monsieur Lier. Monsieur Eugène Cassez-y a obtenu 79 voix et Monsieur Muselier 77 voix. Je déclare Monsieur Cassez-y élu président de la communauté urbaine.
Coup de théâtre dans l'hémicycle de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. 18 communes s'expriment. Joie, déception, 79 voix pour faire gagner Marseille-Provence contre 77 pour l'UMP. Eugène Cassez-y est élu président de cette instance. Certains diront complot, d'autres lassitude du déni des petites communes. La majorité est de toute façon fragile. La paralysie guette. Les différents groupes politiques construisent alors, par nécessité, un texte de gouvernance partagée. Un mois et demi de dialogue avant la mise au vote d'un accord qui devrait courir sur les 6 ans de la présidence. Écoutons Eugène Cassez-y lors de la présentation de ce texte.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les conseillers communautaires, avant de passer à l'ordre du jour de cette séance, je voudrais au nom de l'ensemble des maires, des présidents de groupe et de l'ensemble des élus de cette assemblée, dire quelle est notre satisfaction commune d'avoir concrétisé hier par une signature officielle un contrat communautaire de gouvernance partagée pour l'ensemble de la mandature. Je crois que les semaines qui viennent de passer n'ont pas été inutiles à cet égard. Elles nous ont permis de débattre, d'échanger nos visions et nos projets pour répondre à l'ardente obligation qui était la nôtre de faire fonctionner l'établissement public de coopération intercommunale selon des règles de bonne intelligence inspirées par des objectifs d'efficacité et de réussite au service des habitants des 18 communes qui composent la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Je remercie les maires et l'ensemble des responsables politiques qui ont participé largement à faire aboutir cet accord. Toutes et tous ont œuvré en faisant le choix de l'intérêt général au-delà des clivages partisans. Toutes et tous ont agi avec la volonté commune d'assurer le bon fonctionnement de la communauté urbaine en s'unissant dans un cadre de représentation équilibré des sensibilités politiques au sein de notre établissement public.
Xavier Cachard, élu communautaire UMP de l'équipe de Renaud Muselier.
Ce texte était, à mon sens, indispensable. Je ne vois pas comment, sans encadrer la future, je dirais, les rapports de force qui étaient issus des élections, il était indispensable d'organiser tout cela pour éviter la paralysie de la structure. C'est une évidence pour moi.
Les mots qui ressortent de ce texte sont dialogue, consensus. Est-ce qu'il vous semble que tout va pouvoir se gérer dans le dialogue et dans le consensus ?
Je pense. Jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, les choses se mettent en place. Bien sûr, parfois, on peut penser que des petits coups de canif sont mis dans cet accord de gouvernance, mais je pense que cet accord de gouvernance a besoin d'un certain rodage aussi. Et aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais, de désaccord majeur, je dirais, sur la pratique de cet accord de gouvernance. L'avenir nous indiquera si cet accord de gouvernance a été bien construit d'un point de vue, je dirais, scriptural, pour savoir s'il permet la gestion plus tard de difficultés, parce qu'effectivement, il peut y en avoir, et c'est l'avenir qui nous dira si cet accord de gouvernance a été un bon accord de gouvernance et s'il résiste aux tempêtes futures, si tempêtes futures il y a.
Les tempêtes à venir, certains me disaient qu'ils pensaient que, entre autres choses, ce serait le vote du budget. Vous en pensez quoi de ça ? Est-ce qu'il vous semble que Il va y avoir des dossiers qui seront plus délicats que d'autres.
Il peut y avoir des dossiers plus délicats que d'autres, mais je crois que l'intérêt de M. Caselli et de ses amis, comme de nos propres amis, est de trouver des solutions, parce que globalement, je pense que, je dirais, les convictions politiques sur tel ou tel domaine doivent peut-être un petit peu s'effacer par rapport à certains aspects techniques de certains dossiers qui, à mon sens, ne peuvent pas relever de débats de fond, mais de débats techniques. Le jour où il y aura des difficultés, eh bien, au préalable, les présidents de groupe se rapprocheront, essaieront de trouver un terrain d'entente avec M. Caselli. Si aucun terrain d'entente ne peut être trouvé, à ce moment-là, chaque groupe reprendra sa liberté de vote et nous exprimerons à ce moment-là notre différence et notre refus de participer à telle ou telle délibération. Nous ne sommes pas pieds et poings liés par cet accord de gouvernance. Cet accord de gouvernance est une sorte de gentleman agreement pour essayer de trouver des solutions. Mais quand on ne pourra pas en trouver, eh bien, nous voterons contre. Point, que ce soit pour le budget, si jamais un accord n'est pas trouvé, sur d'autres grands problèmes qui ne seront pas que techniques, où ce sera des choix d'avenir, des éléments relativement graves qui nous imposeront de prendre des décisions contraires à celles des amis de M. Caselli.
Jean-Pierre Bertrand, maire de Plan-de-Cuc, une commune qui ne voulait pas rentrer dans la communauté urbaine, commente aussi ce texte.
Et qu'est-ce que vous en pensez de ce texte de co-gouvernance ?
Écoutez, j'espère que ça tiendra, parce que c'est de l'intérêt de tous. Maintenant, vous savez qu'il y a des élus qui souhaitent faire une carrière et donc qui ont d'autres prétentions. Et le problème, c'est de savoir si cela ne va pas gêner au fil des ans au niveau de la bonne entente. Mais ça, après, c'est chacun qui devra se déterminer, quoi.
Et ça a réveillé des débats, ce texte ?
Ben, oui, parce que chacun a voulu, disons, tenir compte de ce qui avait été avancé. Ça a été le résultat de concessions mutuelles. Je pense que le texte est assez bien. Maintenant, le tout, c'est de savoir comment on va le respecter. Nous, personnellement, il n'y a pas de raison qu'on ne le respecte pas.
Quand vous dites « nous », c'est qui ?
Nous, c'est d'abord le groupe indépendant. Vous savez que nous sommes avec la commune de Marignane, plus une autre personne indépendante. Donc, nous sommes 15 et nous sommes prêts à jouer le jeu. Maintenant, le problème, c'est que la situation de la communauté urbaine est très tendue, je dirais même catastrophique. Donc, il faut sans doute serrer les boulons, c'est-à-dire éviter certaines dépenses et de toute façon ne pas continuer à investir autant qu'on l'a fait. Parce que, bien entendu, ça se traduit par des emprunts, dans la mesure où nous n'avons pas d'autofinancement, et que les emprunts sont les impôts de demain. Or, au niveau des impôts, je pense que les contribuables ont déjà donné.
Mais tout n'est pas si rose. Les parties adverses s'observent sous jauge. Des contrariétés remontent déjà autour de la question financière, autour des investissements de la présidence de M. Godin. Et l'incinérateur et la politique des transports. Et puis, au loin, mais déjà si proche, le vote du budget prévu pour mars 2009. Sur l'incinérateur, Pierre Semeriva, élu communautaire du groupe des Verts.
Bon, faut savoir qu'on on a une chance, si on peut dire, que le tribunal administratif casse la DSP, donc la délégation de services publics à la société Evray. Et donc, ça nous a permis, quelque part, de remettre en cause l'incinérateur. Alors, pour l'instant, c'est pour ça qu'on demande une audite. Une audite, c'est quoi ? C'est pourquoi ? C'est pour que tout le monde soit d'accord sur le principe que, bon, finalement, on peut avoir une autre alternative que l'incinération. Alors maintenant, l'audite, si elle dira le contraire, je veux dire, bon, ben, on va être embêté. Là, on se retrouvera à voter ceux qui sont pour l'incinération, ceux qui sont contre l'incinération. Donc, ce que ça a permis, c'est de remettre, en fait, d'avoir la possibilité de sortir de l'incinération. Voilà. En sachant que cette usine de traitement de déchets ne fait pas que l'incinération. Hein. Je veux dire, il y a quand même une partie de méthanisation, et ainsi de suite. En fait, ils avaient pris une délibération en 2005, sur laquelle les Verts ont fait appel, puisqu'il manquait des pièces attenantes à cette délibération qui concernait le bail. Donc il y avait deux pièces qui étaient indispensables normalement pour que la délib soit validée. Or, le tribunal administratif a considéré qu'elle était cassée puisqu'il n'y avait pas ces deux pièces. Aujourd'hui, on se donne les moyens pour se reposer la question globale, c'est-à-dire pas que le côté environnemental, hein, c'est-à-dire qu'il y aura l'audit, elle a plusieurs volets, elle va avoir un volet environnemental. Donc là, ça a été le choix du Conseil, hein, donc qui a été majoritaire, même si l'UMP a voté contre. Donc là, quand même, quelque chose, c'est-à-dire que cette majorité qui était très fragile s'avère quand même plus ou moins solide. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu un vote en opposition, la majorité Caselli est ressortie. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'UMP, en faisant tout ce qu'il pouvait, à chaque fois, ne sont pas arrivés à mettre en minorité M. Caselli. Bon, donc je reviens sur l'audit. Donc sur l'audit, il y a une partie environnementale. D'accord, donc santé publique, tout ça, donc ils vont, en sachant pour nous notre position, je ne vais pas le redire, celle des Verts, d'accord, mais bon, là c'est l'audit, c'est pas nous. Hein. Après derrière, on a le côté juridique, savoir comment on peut se sortir de ce bourbier, on pourrait dire, hein, parce que c'est un bourbier juridique, c'est-à-dire comment on n'a plus la possibilité d'exploiter, mais on est toujours au contrat avec la société, c'est-à-dire que le contrat est toujours valable, lui, par contre. Et un côté financier, d'accord, s'il y a une obligation d'avoir à payer des indemnités dues au non-fonctionnement de la structure. Voilà. Ce que je vous dis, c'est que, alors après, derrière, il va y avoir tout un débat. Hein, je veux dire, peut-être que ça va nous permettre de nous positionner par rapport à cet audit. Et bon, là, peut-être que les majorités et les minorités ne se retrouvent pas aussi clairement que droite-gauche. Voilà. C'est-à-dire que ça a été une volonté de la ville de Marseille, mais toujours pareil, c'est une volonté de la ville de Marseille, c'est pas une volonté de la communauté urbaine. Je veux dire, parce que quand même le plus gros, le point le plus révélateur de la non prise en compte des populations, ça a été d'installer cet incinérateur sur un site où même pas MPM n'est présent. Je veux dire, on l'a posé sur une autre communauté urbaine. D'accord. Donc aujourd'hui, quand même, on peut vraiment se poser le problème de savoir est-ce que c'est normal qu'on impose à ces populations un incinérateur. Voilà.
Quand vous dites que la majorité de M. Caselli n'a jamais été mise à mal, qu'est-ce qu'il y a eu comme vote important là ?
Alors, il y a eu, bon, d'accord, le vote sur l'incinérateur qui a été important. Après, le quoi ? Pas sur l'incinérateur parce qu'ils ont été malins, c'est-à-dire que sur l'audit, ils étaient d'accord.
Quand vous dites obligés, il, c'est l'UMP.
C'est l'UMP. D'accord. Par contre, vous savez qu'ils ont présenté une délibération de remplacement pour remplacer celle qui avait été cassée. Quoi, ils se sont retrouvés en minorité. De même, on a demandé une audite financière. D'accord. Ça a été exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec l'UMP qui n'est pas d'accord sur l'audite financière. Donc, sous prétexte que la communauté urbaine n'a pas les moyens, puisque c'est vrai qu'elle est très endettée, mais justement pour avoir une vision, de savoir l'endettement, de savoir quelle est la capacité de financement de cette structure, je vois pas comment on peut faire autrement que passer par une audite. Donc cet audit a été mis à mal, pareil, ils ont voulu voter contre au niveau de la...
Mais avec quels arguments ?
L'argument avant tout, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire de faire ça alors que toujours pareil, eux, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est... De toute manière, il n'y a pas de sous, alors que le mandat d'avant, ils ne sont pas trop posé la question.
À droite, M. Giorgi, maire de Carnoux, se cache derrière les études techniques et refuse toute intention politique.
Ah, mais il y a des dossiers compliqués.
Tel que
Il va y avoir l'incinérateur, je pense. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais nous serons très attentifs, parce qu'il y a des sommes en jeu très importantes.
Comment vous positionnez-vous par rapport à l'incinérateur ?
Point de vue technique, je crois que toutes les études ont été faites. Les comparaisons ont été menées entre les différentes régions, les différentes villes, les différents pays, sur les méthodes utilisées. Bon, l'incinérateur, il semblerait, incinérateur de nouvelle génération, il semblerait que ce soit un moyen d'élimination de déchets incontournable, enfin du moins c'est ce que je pense. Il ne faut pas que ce soit le seul moyen d'élimination des déchets. Ceci doit s'accompagner de tri sélectif, de méthanisation, d'enfouissement, enfin, etc. Donc je crois que c'est un peu le mélange de toutes ces méthodes qui font qu'on aura un système d'élimination performant. En tout cas, c'est le système qui a été choisi par l'ancienne gouvernance. Je pense que c'est un bon système, il a été accepté par le préfet, je crois que tout le monde a pu s'exprimer, et puis je pense aussi qu'il y a eu un débat qui allait au-delà du débat technique, c'est-à-dire qu'il devenait, il prenait une tournure, à mon sens, il prenait une tournure politique. C'était les partisans de l'incinérateur à droite, les anti-incinérateurs à gauche. Alors, comme le disait le président Gaudin, le traitement des déchets, ce n'est ni à droite ni à gauche. Il faut qu'on fasse face à nos obligations, il faut faire face. La communauté urbaine a eu le mérite de proposer quelque chose et de l'initier, ce qui n'avait pas été fait depuis des années. Donc aujourd'hui, le dossier est repris, puisqu'il y a une nouvelle gouvernance. Donc nous resterons attentifs à ce qui sera proposé, et ça sera analysé par rapport, d'une part, aux arguments techniques qui pourront nous être donnés, et aussi par rapport aux arguments financiers. Un audit a été voté, va être fait, et là encore, il ne faut pas préjuger de ce qui va sortir de cet audit.
Il vous semble que cet incinérateur tel qu'il était proposé,
Chère c'était... Madame, il n'y a pas de meilleure solution. On pourrait parler de moins mauvaise solution.
C'est comme ça que vous le qualifieriez ? Mais
on qualifie. Il y a forcément quelques nuisances chaque fois qu'on élimine les déchets, quelle que soit la méthode utilisée.
Avec vous jusqu'à 14h. Merci d'être fidèle tout l'été à votre émission préférée. Les GG, c'est bien sûr au 32.
Il n'est pas seulement à la présidence de la RTM, c'est aussi une grande gueule, une GG de RMC.
Et on attend le nouveau patron des transports marseillais, Karim Seribi. Je ne sais pas s'il a pris un bus depuis Marseille.
Ils sont en grève là-bas. Ils sont en grève, ils sont en grève.
Déjà séquestré une première fois. Il est voilà, une présidente depuis deux jours. Hein.
Coulé.
Bon, Karim qui devrait arriver, qui est en scooter à Paris. J'espère que tout se passe bien et que ça circule bien dans Paris. A priori, oui, en général, l'été, ça roule mieux.
Non, mais pas, non. Ah, c'est, non, c'est pas très bon, la circulation.
Non, c'est le bordel. C'est le bordel. Paris, oui,
donc,
oui,
il a encore un mot d'excuse, alors.
Oui.
On salue Karim qui vient d'arriver avec sa cravate.
Toujours.
Ça va nous coûter cher. Salut,
Karim, il a perdu 20 minutes à faire le nœud, mais c'est toujours. Bon.
Voilà. Oui, mais il est président d'un truc, maintenant.
Président des transports marseillais.
Tu n'as pas remarqué que je l'avais avant d'être président du machin dont tu parles.
Oui, mais on est en train tous de la tomber, la cravate, là.
Tu sais que, depuis qu'on a annoncé à nos auditeurs hier que tu étais président des transports marseillais, certains t'ont baptisé Zeribus.
Zéry Binet, Zéry Binet. Finalement, c'est singulier de. Mais jamais on aurait pensé dans la famille que mon nom puisse permettre autant d'innovation dans la sémantique française d'aujourd'hui.
Zéry Bus.
Attention, Zéry Bousson.
C'est le singulier de Zéry Binet.
Attends, Zéry Bus, le latin, c'est quand même la langue ancestrale du français.
Ouais, ouais, puis c'est un. Tu vas devenir un vieux Gaulois.
Zéry Bus. On
a un établissement public industriel commercial qui s'appelle RTM, la Régie de Transport de Marseille. Et donc là, c'est un élu qui préside donc la RTM. Et
Karim Zeribi.
J'ai été désigné au sein du conseil d'administration pour coordonner, orienter, impulser une politique au sein de l'EPIC. Mais je suis de fait, en qualité d'élu communautaire, aussi le garant des objectifs fixés par l'autorité organisatrice, qui est l'actionnaire majoritaire, si je puis parler ainsi, de la RTM. Après, il y a une direction générale qui doit décliner sur le plan opérationnel, sur le plan du management des hommes, des relations sociales, nos orientations et nos objectifs politiques. Et je suis chargé de suivre au plus près, valider le fait que ces orientations soient bien appliquées.
Et proposer aussi.
Et bien entendu proposer, quand on fait de la politique, on est avant tout force de proposition, et donc on a un certain nombre d'idées, d'objectifs, d'ambitions que nous avons commencé au sein du conseil d'administration de la RTM à faire partager à la direction générale, au cadre de l'entreprise et plus largement aux salariés.
Bon, et quelles sont les orientations politiques alors impulsées par la CUM ?
Écoutez, je crois qu'on peut les définir autour de quatre grandes orientations. D'abord, il y a effectivement la modernisation du réseau. Quand on parle transport en commun, il faut parler fluidité de la circulation et aménagement de la voirie, aménagement du territoire intelligent. Ben, il va falloir faire des sites propres, aménager la voirie, pour qu'on puisse avoir des voies réservées aux bus, que ces derniers puissent augmenter leur vitesse de circulation et que véritablement le citoyen puisse se dire que dans sa voiture, bloqué dans les embouteillages, il serait peut-être plus pertinent qu'il emprunte le transport en commun, qui a une dimension de service public. En seconde priorité, l'offre tarifaire. Il faut que le transport en commun soit accessible pour tous. Et ça me paraît essentiel que nous puissions revoir notre offre tarifaire. Nous avons le prix du ticket le plus cher de France, 1,70 €. Donc, et j'ai souhaité, dès ma prise de fonction, à ce que les équipes de la RTM, de la communauté urbaine, travaillent à une nouvelle offre tarifaire qui puisse ramener assez rapidement, dans des délais qui doivent nous mener jusqu'à la fin de l'année, donc à un prix du ticket à l'unité à 1,50 €. C'est mon objectif et mon ambition. Je pensais au troisième point, à l'équité territoriale, parce que je pense que Marseillais et Marseillais ont droit à être traités de la même manière où qu'ils habitent et quelle que soit leur situation sociale. Et là, je crois qu'on a aussi une problématique, c'est qu'on a oublié certaines zones de Marseille, et je veux qu'on repense l'équité territoriale, la qualité du transport en commun, qu'on habite au nord du Marseille, à l'est, au centre ou au sud, on doit être traité de la même manière et arrêter le cloisonnement au regard des quartiers où peuvent habiter les uns et les autres. Et le dernier point, j'aime bien, c'est le confort et la sûreté. Il va falloir renouveler notre flotte de bus, ça a commencé. Donc il faut des bus plus modernes, climatisés, aménagés avec des caméras surveillance, parce que c'est de la sécurité des clients, mais aussi de nos salariés dont il s'agit. Donc il faut être dissuasif, préventif, pour éviter la répression, et je dirais la prévention autant que possible.
Donc vous dites que vous passeriez de 1,70 à 1,50. Déjà, ces 20 centimes, comment vous pensez les compenser ?
Il va falloir que nous puissions aussi proposer notre mode de fonctionnement de la RTM, qui peut nous permettre de faire quelques économies par ailleurs. Quand on a une fraude qui se chiffre à 18 millions d'euros, c'est peut-être parce que le prix du ticket est trop cher. Et si, de fait, on baisse le prix du ticket et que la fraude est moindre, on aura peut-être dans les recettes de la RTM quelques bonnes surprises. Parce que si on a une démarche de prévention, une démarche de pédagogie, mais qui est conjointe à une démarche sociale et économique, qui indique aux citoyens lambda que la fraude doit être combattue parce que c'est une atteinte portée au service public, et que si on fait des efforts sur la baisse du prix du ticket, on espère quand même que le message sera entendu. Permettez-moi de vous dire que si on a plus de recettes parce que le prix du ticket baisse, on n'a pas besoin d'aller chercher des compensations bien loin. Hein. 20 centimes d'euros, ça paraît rien peut-être pour vous ou pour moi, mais c'est énorme pour ceux qui ont 10 euros dans la poche et qui doivent penser à acheter la baguette avant la fin de l'année. Au plus tard, au 1er janvier 2009, je m'y suis engagé.
Et est-ce qu'on est loin du transport public gratuit ?
On n'y pense pas aujourd'hui parce qu'il y a des équilibres financiers et économiques qui font que si on a un transport public gratuit, on va demander une subvention plus importante à la communauté urbaine qui est l'autorité organisatrice. Où on prend la subvention ? Dans la poche du contribuable, soyons clairs. Alors, il faut faire les choses, à mon avis, de manière la plus transparente possible. On a besoin de cette subvention et moi, je vais me battre pour qu'elle ne diminue pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un discours politique qui place le transport comme étant une priorité dans une société moderne, pas faire les efforts nécessaires sur le plan des moyens qu'on pourrait nous donner. Par ailleurs, si on allait vers la gratuité, cette compensation que vous évoquiez sur le billet de 1,70 à 1,50, il faudrait aller la chercher ailleurs. Il faudrait aller la chercher auprès de notre autorité organisatrice, MPM, qui n'est pas en bonne santé financière, il faut aussi dire les choses les yeux dans les yeux, et qui nécessiterait qu'elle demande aux contribuables de mettre la main à la poche. Ce que Eugène Caselli ne veut pas, augmenter les impôts, et je le comprends, même si la situation n'est pas mirobolante, nous devons faire avec. Donc, on est dans une démarche de solidarité, avec une offre tarifaire qui comprend des tarifs sociaux, et là on doit avoir des tarifs attractifs pour ceux qui sont en grande difficulté, les chômeurs, les RMistes, les personnes âgées, les travailleurs au SMIC, les étudiants, avec des amendements de travail et autres, et puis des tarifs commerciaux, donc qui là doivent nous permettre d'étayer une offre qui doit permettre à chacun de s'y retrouver. C'est quand même ça l'objectif.
Et est-ce que dans la façon dont c'était géré par l'ancienne présidence, est-ce que ça pêchait de ce côté-là ? Vous parliez de problèmes d'équité territoriale, vous parliez de prix du billet. Est-ce qu'il n'y avait pas de politique dans ce sens-là ?
Je ne me permettrai pas de dire ça. Vous savez, c'est toujours facile de parler de ses prédécesseurs en disant qu'ils ont laissé un mauvais bilan et qu'on doit tout reprendre à zéro. Donc, par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'auraient pas été les nôtres. Je pense à l'exemple du tramway dans l'hypercentre. Moi, si j'avais été effectivement aux responsabilités, j'aurais opté plutôt pour un tramway qui sorte du centre-ville et qui aille sur Marseille Nord et Marseille Est. Parce que je pense qu'il est temps de désenclaver, je pense qu'il est temps de faire la ville, j'ai envie de dire, un peu... une indivisible en parlant de Marseille et pas simplement d'un hypercentre qui devrait être choyé et d'une banlieue proche qui serait un peu oubliée. Et de fait, on a 40 000 voyageurs par jour sur le tramway aujourd'hui à Marseille. Toutes les études démontrent que si on avait fait pour le même prix, et j'insiste, pour le même prix, le même tramway sur Marseille Nord, on aurait 150 000 voyageurs par jour. Ça veut dire que le besoin est réel, qu'il existe, qu'on n'a pas pris en compte ce besoin et qu'on s'est effectivement plutôt contenté de mettre des moyens d'investir une belle vitrine en centre-ville. Et je reconnais que c'est une belle vitrine. Et je crois qu'on peut aujourd'hui améliorer donc la stratégie de nos prédécesseurs. Peut-être un peu la recadrer aussi en fonction de nos aspirations, de nos convictions. C'est ce qu'on va s'atteler à faire, mais sans cracher dans la soupe, sans les critiquer outre mesure.
Et par rapport à la construction du syndicat mixte des transports, est-ce qu'il y a des entraves ?
Ben non, je ne vois pas pourquoi il y aurait une entrave. Aujourd'hui, il y a Patrick Menucci qui est chargé de travailler à l'élaboration d'un projet. Il consulte, il rencontre beaucoup de monde. Nous serons force de proposition aussi du côté de la RATM parce que nous benchmarkons un peu avec d'autres réseaux. Et ensuite, le politique prendra la décision. J'en fais partie. Mon ambition, très clairement, c'est que plutôt que d'aller vers un transport urbain privatisé, on puisse maintenir une dimension de service public avec une confiance que j'espère qui sera plus que réitérée et renforcée à la RATM au-delà de son réseau actuel. Moi, je veux concilier la performance et la solidarité.
Mais apparemment, le tramway va rester une entreprise publique.
À le tramway, j'ai envie de dire, heureusement que le tribunal administratif a statué effectivement pour casser la DSP. J'en suis très heureux. J'ai présenté la délibération le 18 juillet dernier à la communauté urbaine. Donc la DSP est aujourd'hui cassée. On va vers la transaction avec Veolia et la RTM des dépenses qui ont été effectuées par ces deux entreprises, l'une privée, l'autre publique, donc au cours des 18 derniers mois de gestion de l'exploitation. Et ensuite, on donnera l'exploitation totale. D'ailleurs, elle est déjà effectuée. À la RATM du tramway. La RATM a 120 personnes sur le tramway aujourd'hui. Veolia n'en avait que 3. Les calculs vont être vite faits dans la transaction. Et en plus, il restera environ 2 millions d'euros qui iront dans les caisses de la communauté urbaine. Quand on connaît la situation financière de notre collectivité, on ne peut que s'en réjouir. Donc,
elle s'élève à combien la compensation pour Veolia ?
Aujourd'hui, les calculs ne sont pas faits. C'est à Veolia de nous le dire. Bon, je ne sais pas exactement à combien ça se chiffre. Donc on attend de Veolia que ces chiffres nous arrivent dans le cours du mois mois de septembre. Du côté de l'RTM, il en sera de même. Et ensuite, derrière, on acte la résolution définitive avec cet avenant qui rend l'exploitation totale à la RTM. Il était temps. C'est aussi un signe fort que les choses n'avaient pas été faites comme il se devait par le passé.
L'un des points du programme de M. Guérini, pour les municipales, c'était de mettre en place une navette maritime. Où s'en est, ça ?
Il y a des études qui sont menées. Je ne vous dis pas que la RATM se désintéressera de ce sujet, parce que d'abord, on pourrait imaginer que la RATM puisse avoir la charge de ce transport, tout en le déléguant après à un spécialiste. Et puis il y a la question de l'intermodalité. Donc quand on a des navettes maritimes, il serait intéressant à l'arrivée de ces navettes, que ce soit à l'Estac, au Vieux-Port ou à la Pointe-Rouge, d'avoir des bus disponibles pour prendre le relais, comme on pourrait avoir donc une complémentarité avec le transport en vélo. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de station Vélib Marseille donc à l'Estac. À croire que ces gens-là ne veulent pas faire de vélo. Donc,
ni à la Belle de Mai.
Ni à la Belle de Mai, là aussi. On pensait équité territoriale il y a un instant. Ben, je crois qu'il va falloir se poser les bonnes questions à l'avenir.
Et à votre avis, pourquoi il n'y a pas de Vélib passé le tunnel national ?
Parce que je crois que dans le contrat, encore une fois, il y a peut-être des zones qui ont été oubliées, des habitants auxquels on n'a pas pensé, et sous je ne sais quel préjugé, et on a un contrat initial qui ne prenait pas en compte la totalité de l'agglomération, ce qui est très regrettable, parce que ce n'est pas ma manière de concevoir la politique, la gestion et l'animation de la cité. C'est avec un grand C que ça doit se faire, et pas avec, je dirais, des petites fenêtres qui doivent satisfaire des clientèles ici ou là. Il faut remédier à ça.
20 ans après la création du métro, M. Gaudin a tenté l'ouverture du métro passé 21h. Où on en est là-dessus ?
Et ça ne vous a pas échappé quand même que cette décision a été prise en pleine campagne électorale. Il n'était pas acceptable, parce que quand même ce que je vous dis est effrayant, que nous soyons la seule ville au monde, je suis marseillais, mais là je ne le suis pas, pour le coup en exagérant, qui possède un métro qui ferme à 21h. La seule ville au monde. Il n'y en a pas d'autres. Donc, aller jusqu'à minuit, mais ça nécessite effectivement de penser là aussi l'intermodalité. Si on a des métros qui vont jusqu'à minuit, on doit avoir des bus qui soient en appui donc pour desservir les secteurs de Marseille. Parce qu'on peut imaginer que quand on habite l'Est ou le Nord de Marseille, on a envie de manger un bout, de voir un spectacle au centre-ville. Donc, tout ça doit être repensé, ça va être fait, ça va être le cas. Mais je le disais, si je ne suis pas un adepte du tout sécuritaire, je pense quand même que nous devons assurer un certain nombre de conditions pour ouvrir le métro jusqu'à minuit, et la sûreté des biens et des personnes fait partie de ces conditions. Donc la RATM va travailler à la mise en place d'un contrat local de sécurité transport qui intégrera la possibilité d'ouvrir le métro jusqu'à minuit. C'est mon objectif en qualité de président de la RATM. Je l'ai soumis à la direction générale qui y travaille, qui me fera des propositions très prochainement en ce sens.
La mairie de Marseille est donc tenue par l'UMP, en la personne de M. Gaudin, et la CUM, faire gagner Marseille, Provence, c'est ça, en la personne de M. Caselli. Donc comment ça va se passer, la concertation entre les deux ? Vous avez dit que la MPM ne doit pas être le tiroir-caisse de M. Gaudin.
C'est ce que je pense, moi. Pas... Oui, je pense totalement que le maire de Marseille doit changer ses habitudes. Vous savez, le maire de Marseille, jusqu'à présent, il prenait des décisions tout seul, ou avec quelques amis dans son bureau, et il demandait au conseil général, au conseil régional, de mettre la main à la poche. Excusez-moi, mais je crois que la gouvernance partagée telle qu'on l'évoque, et le partage de vision au nom de l'intérêt général, ne peut pas se mettre en œuvre ainsi. Aujourd'hui, la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole est dirigée par Eugène Caselli, qui fait partie de notre majorité. Et effectivement, il va falloir respecter ce président, parce que là aussi, ce n'est pas l'antichambre de la mairie, Marseille-Provence Métropole. Et de fait, c'est une collectivité qu'il va falloir respecter pleinement, et avec laquelle il va falloir discuter, travailler en étroite collaboration. Donc la donne change pour Jean-Claude Gaudin, qui avait l'habitude, effectivement, d'avoir une forme de mélange des genres qui n'était pas, à mon avis, porteur de choses très positives pour la ville de Marseille, entre la CUM, communauté urbaine, et la mairie de Marseille. Aujourd'hui, il faut bien dissocier le fonctionnement des services, les décisions qui sont prises, les prérogatives des uns et des autres. Mais moi, je veux croire que l'intelligence l'intelligence gagnera et que aujourd'hui on se mettra autour d'une table parce que Eugène Casini y est prêt. C'est un homme de consensus, c'est un homme qui est tout à fait prêt à entendre, à partager. Donc alors il faudrait pas gâcher cette chance du côté de l'UMP de Jean-Claude Gaudin en voulant jouer, j'allais dire, de la stratégie politicienne pour essayer de nous mettre en difficulté. Personne n'y serait gagnant donc, à jouer ce petit jeu. Est-ce que Jean-Claude Gaudin sera de la partie? J'ose l'espérer, mais je ne suis pas certain.
Dans son rapport de 2006, la Chambre régionale des comptes écrit, je cite, « En dépit de l'absence d'autofinancement, les projets de la communauté urbaine sont très importants. La dette a augmenté constamment et a plus que doublé entre 2005 et 2006. Elle passe de 310 millions d'euros en 2005 à 710 en 2006. » Fin de citation.
J'ai lu le rapport de la Cour régionale des comptes. Ce qui en ressort, si on s'intéresse seulement au dossier financier, c'est un surendettement par un problème de prévision d'autofinancement. Et, à votre avis, comment ça peut se régler, ce problème d'endettement?
Je crois que déjà la base de ce rapport, vous savez, sera tous ces rapports de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, ne sont en général jamais une suite d'éloges. Ça, c'est la première chose. Il faut bien trouver quelque
Xavier
chose
Cachard.
À dire, mais je crois que l'essentiel dans ce rapport d'audit, c'est qu'à aucun moment, la gestion de l'ancien président, M. Jean-Claude Gaudin, n'a été remise en question. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dirais, ne serait-ce qu'un soupçon de manquement à la probité, à l'honnêteté, etc., n'a été relevé. Et ça, je crois que c'est l'élément essentiel dans la gestion de Jean-Claude Gaudin. Deuxièmement, s'il y a un endettement, cet endettement a une origine qui est très simple, c'est la nécessité de faire certains investissements. Ces investissements ont été faits, ont nécessité un endettement, mais c'est pour une richesse future, donc pour moi cela ne pose aucune difficulté. C'est naturel, c'est normal, et d'ailleurs ce rapport de la Chambre régionale des comptes ne critique pas avec véhémence, signale un fort endettement, mais ne s'insurge pas contre un surendettement. La communauté est endettée, mais je dirais que c'est de la bonne dette.
Jean-Pierre Giorgi, maire de Carnoux.
L'endettement, il en faut, puisqu'on ne fait pas le tramway, le métro et tout ce qui a été fait pendant 7 ans sans emprunt. On ne peut pas demander à une seule génération de financer tout ce qui a été fait. C'est énorme. Donc il faut emprunter. Alors maintenant, le niveau de l'endettement, est-ce qu'il est trop fort? Ça, c'est un débat économique. Il est trop fort si on n'est pas capable de développer des moyens pour faire des recettes supplémentaires et donc avoir une capacité de remboursement plus importante. Ce ne serait pas une erreur si on a ces moyens-là. Par contre, si on n'a pas les moyens de rembourser notre dette et qu'on soit obligé de peser sur la fiscalité dans un moment difficile, puisque le pouvoir d'achat, on en parle beaucoup, ça devient de plus en plus préoccupant, ce problème de pouvoir d'achat. Alors à ce moment-là, s'il faut peser sur la fiscalité d'une manière trop forte, ça pourrait être une erreur, effectivement. Mais il est encore trop tôt pour le dire, madame.
C'est peut-être une erreur de la précédente...
C'est pas une erreur, c'est un état de fait. L'endettement est très fort. Est-ce que nous serons capables d'y faire face sans annihiler toute possibilité d'investissement supplémentaire, sans peser de trop sur la fiscalité? Si c'est le cas, c'est une erreur.
Est-ce que vous pensez que ça pèse actuellement trop sur la fiscalité?
Pas encore. Il y a eu un impôt communautaire qui a été voté il y a 2 ou 3 ans. Bon, depuis lors, on n'a plus touché, on n'a plus augmenté l'impôt communautaire. Si on en reste là, ça sera dans le domaine du raisonnable.
Vous vous dites, on ne pouvait pas faire assumer à une génération tous ces projets, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mener d'autres projets?
Ça, c'est un problème de choix politique. C'est le choix qui a été fait, c'est-à-dire développer en priorité les transports. Et c'est vrai que c'est important, les transports, dans une aire métropolitaine. Le choix a été fait, nous l'assumons.
Vous étiez pour, en tant que maire de Carnoux?
Écoutez, c'est une option qui a été choisie par le président, qui a été relayée par les groupes politiques, qui a été votée, notamment au début, par tous les groupes confondus. Dire maintenant c'est une erreur n'aurait pas dû, c'est facile, mais à l'époque, je rappelle qu'il y avait quand même un consensus et que tout le monde était d'accord pour dire que Marseille avait X années de retard dans ses moyens de transport, donc il fallait bien faire quelque chose. Ça a été fait. Ce qu'il faut espérer aujourd'hui, c'est qu'on soit capable de développer des recettes supplémentaires, de faire face à nos engagements et d'appeler le développement économique de nos voeux, parce que ce sera par le développement économique que nous pourrons faire face à tous ces engagements et développer le bien-être de tous nos concitoyens dans cette aire métropolitaine. On était dans une phase de très très fort investissement et on va être obligé aujourd'hui de mieux canaliser nos dépenses, de les réduire d'abord. Et ça peut effectivement soulever débat par rapport à tous les projets qui étaient dans les tiroirs. Tous les projets, à savoir en matière de voirie, en matière de parking, en matière d'investissements divers et variés, on va être obligé, je pense, de réduire la voilure. Donc ça peut effectivement grincer quelque part, mais l'argent qu'on n'a pas, si on s'endette de trop, on n'aura pas l'argent, parce qu'on ne prêtera plus, d'une part, ou d'autre part, on ne sera plus en capacité de rembourser. Donc là aussi, ça a ses limites, l'endettement. Donc il faudra vraisemblablement réduire la voilure. Alors, comment ça va être arbitré? Parce qu'il faudra faire des arbitrages. Tout l'intérêt de ce qui va se passer ces prochaines années, ça va être justement dans le consensus, dans l'arbitrage, dans les choix qui vont être faits au niveau des investissements.
À votre avis, qu'est-ce qui pourrait développer, enfin, quel secteur pourrait développer le mieux l'activité économique de la communauté urbaine?
Ça dépend des villes. Il est bien évident que toutes les villes de côtières, je crois, sont bien placées pour développer les activités estivales, portuaires, etc. La Ciotat a un formidable développement sur la réparation navale de Plaisance. Hein, vous le savez, ça repart très très bien. Et puis, il y a aussi des zones économiques qui se créent sur la Ciotat, avec les zones Atelier. Je crois qu'ils sont à Atelier 3. Donc, il y a eu 3 Ateliers, il y a eu je ne sais combien de milliers de créations d'emplois. Donc, ça, c'est porteur, ça, c'est très bien. Alors, il y a Marignane aussi, qui a une zone, on en parle depuis 6 ans, je ne sais pas où on en est exactement, mais qui a une zone de plusieurs hectares à développer. Je crois qu'il faut pousser là-dessus. Et puis d'une manière générale, chaque fois qu'on peut développer de l'activité économique, il faut le faire, ça va être l'enjeu de ces prochaines années.
Parce que ça manque.
Oui, ça manque.
En attendant le vote du nouveau budget, laissons le mot de la fin à Jean-Pierre Bertrand, maire de Plan de Cuc.
C'est vrai que tout passe par les finances. C'est le financier qui tient tout le reste. Sur la communauté urbaine, c'est vraiment le financier qui risque, disons, de nous faire chuter, couler, enfin, etc. Donc c'est vrai qu'il va falloir prendre garde. Ce que je souhaite, c'est sensibiliser un petit peu tous les élus et surtout les maires pour que nous fassions très attention aux dépenses. Parce qu'on a largement dépensé les années précédentes et maintenant il faut penser à arrêter pour, dans 6 ans, repartir sur de bonnes bases. Or là, actuellement, les bases ne sont pas bonnes. Au niveau de 2008, le budget a été voté par la précédente majorité, ce qui fait que pour l'instant, on vit sur les votes qu'il y a eu précédemment, et ceci jusqu'à pratiquement mars prochain. Et moi, j'essaie de sensibiliser les gens sur le fait qu'il faut faire une pause relativement importante sur les investissements, parce que si on continue sur la tendance ou le trend, eh bien nous allons dans le mur. Je crois qu'on y est très près, mais si on continue, je pense que ça va être très 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 difficile. Mais d'ores et déjà, je peux dire que ça s'annonce nettement mieux qu'avant, puisque là on sent qu'on peut discuter, on sent qu'on peut préparer, on sent qu'on peut voir le président lorsqu'il y a quelque chose d'important. Il va y avoir également un audit qui permettra de dire où on en est. Il y a déjà eu la Chambre régionale des comptes qui a indiqué sur quelques années ce qui n'allait pas. je pense qu'on devrait arriver à mieux faire qu'avant, avec malheureusement moins de moyens, c'est-à-dire que les investissements seront certainement diminués de beaucoup.
Cette émission autour des questions relatives à la nouvelle majorité à la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole a été réalisée par Katia Kovacic. Sont intervenus Karim Zeribi, Jean-Pierre Bertrand, Jean-Pierre Giorgi, Xavier Cachard et Pierre Semeriva. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.grenouille888.org.